Intouchable. Tout de suite.
Tout de suite.
Une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM. 98.4 FM. Et sur le www.re2m.org. Il est 11h.
Silence.
Toujours sur Radio Entre Deux Mers et c'est l'émission Conversation autour du cinéma. Et qui dit conversation autour du cinéma dit que je suis accompagné de Anne. Salut Anne.
Oui, conversation autour du cinéma, ben merci. Oui, c'est moi, je suis là avec toi. Et nous sommes là, Thibaut. Bonjour Thibaut, ben on s'est vu déjà.
Ben oui.
Et nous sommes là pour nos auditeurs, évidemment, hein, parce que nous on les aime et puis qu'on est content d'être avec eux. Et ça, c'est vrai. Voilà. Donc, on va parler, on va parler de cinéma. Bon, en ce moment, hein, je vais juste dire que le Festival de Cannes se déroule à peu près normalement. Bon, voilà. Je parle du cinéma, hein, je parle pas de tout ce qui se passe autour. Ça, ça nous intéresse pas. Mais au point de vue cinéma, ça se passe plutôt bien. Hein. Harrison Ford a eu un gros succès. Belle conférence de presse que j'ai regardée, d'ailleurs.
Avec Indiana
conférence
Jones.
De presse d'Harrison Ford. Et ça se passe très bien au niveau cinématographique.
Bah Indiana Jones qui devrait arriver bientôt, le dernier, je crois.
Oui, absolument, oui. Et donc, il pleut, je crois. Il pleuvait à Cannes, par contre, ils ont eu des... Mais bon, il faut de l'eau, alors pourquoi pas à Cannes. Alors, on va commencer, on va partir dans l'eau. Tu veux bien qu'on aille un peu se baigner?
Allons-y, il commence à faire chaud, profitons-en.
Allez. La petite sirène. Ah ben c'est le film qui est, c'est un film dont on parle beaucoup, qui est très attendu. La petite sirène. Attention, mes chéris, si vous allez vous baigner et si vous entendez une sirène chanter, éloignez-vous. Oh, c'est un piège. Non, faites là. je pensais à autre chose. Je pensais aux sirènes qui attiraient les marins pour qui les attiraient dans l'eau. Pour les tuer, quoi, hein, mais ça, c'était la légende des sirènes et des bateaux avec les marins, voilà, il y avait des légendes comme ça. Donc là, non, c'est pas du tout la même, là, c'est la petite sirène de Hans Christian Andersen. Eh ben oui, oh là là, on connaît quand même, hein, tous les contes de cet homme-là. Alors, quand même, pour la petite histoire, la petite sirène, il y a une statue en bronze sur un rocher dans le port de Copenhague, dans le parc Churchill. Eh oui, c'est une représentation du personnage du conte d'Andersen.
Bah, une des attractions touristiques de Copenhague les plus connues, de toute façon.
Absolument, absolument. La petite sirène de Copenhague, mais bien sûr. Statue en bronze, très très jolie. Il y a beaucoup de cartes postales qui la représentent. Pour les touristes, on voit toujours une carte avec la petite sirène. Ceux qui vont là-bas, et ils envoient à leurs amis la carte avec la petite sirène. Voilà. Ça, c'était pour la petite histoire. Alors, que se passe-t-il? Ah ben d'abord, on va quand même dire que ça dure 2h10. Ah oui, alors justement, précisément, à propos de ces 2h10, il y a 50 minutes de plus que dans l'original animé de Walt Disney. Donc c'est un film Disney, c'est probablement le film Disney le plus long de l'histoire du cinéma, La Petite Sirène. 50 minutes de plus que le film d'animation, c'est pas mal.
Bon, on peut en profiter encore plus longtemps, c'est ça qui est cool.
Exactement, exactement. Alors, c'est de l'aventure, c'est pour la famille, hein. Absolument, c'est fantastique. On peut emmener, moi je pense qu'on peut emmener les enfants à partir de 7-8 ans, je ne sais pas ce que tu en penses, moi je crois quand même.
Ah oui, ça me paraît raisonnable. Hein.
Oh oui, oui, bah, oui on oui, connaît oui. Nos enfants, on sait s'ils vont supporter ou pas de toute façon. Mais moi je dis qu'on peut y aller en famille, ouais. Peut-être pas les petits quand même, hein, parce que bon, il y a des scènes qui peuvent leur faire peur peut-être.
Bah, ça me fait un peu penser, ça me fait un peu penser à l'Odyssée de Pi.
Pardon ?
Ça me fait un peu penser à l'Odyssée de Pi.
Oui, oui, tout à fait. Ah oui, oh là là, qui est un film magnifique, l'Odyssée de Pi. Ah bah oui. Alors là, c'est Rob Marshall, hein, qui est un réalisateur-producteur. Il est auteur américain. C'est lui qui l'a réalisé. Il a 62 ans, 22 ans de carrière, 8 films à son actif. Il a 8 tournages en tout cas. Et il a eu des nominations quand même, pas mal de nominations. Sur 8 films, c'est pas trop mal. Et donc là, il s'est lancé dans cette réalisation. Je crois que ça lui pesait beaucoup en fait, hein, de faire ce film. Alors, on est dans les années 1830, dans les eaux d'une île fictive des Caraïbes, Ariel, la Benjamine des filles du roi Triton, est une jeune sirène, belle et fougueuse, dotée d'un tempérament d'aventurière. Rebelle dans l'âme, elle n'a de cesse d'être attirée par le monde qui existe par-delà les flots. Au détour de ses escapades, à la surface, elle va tomber sous le charme du prince Éric. Alors qu'il est interdit aux sirènes d'interagir avec les humains, Ariel sent pourtant qu'elle doit suivre son cœur. Elle conclut alors un accord avec Ursula, la terrible sorcière des mers, qui lui octroie le pouvoir de vivre sur la terre ferme, mais sans se douter que ce pacte met sa vie et la couronne de son père en danger. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent le conte et qui l'ont lu, on retrouve, hein, absolument, on retrouve l'histoire, tout à fait. Et il y a un joli casting, vraiment. La sirène est tout à fait charmante. Cette actrice, Al Bellet, elle s'appelle, elle a 23 ans, qui joue le rôle d'Ariel. Elle est tout à fait charmante. Et je ne sais pas, et elle chante, hein, bien sûr, elle chante dans le film. Les sirènes chantent. Hein. Bon, voilà, elle est américaine. Et puis le prince Eric, c'est un acteur britannique, Jonah Howard King. On a Ursula, c'est Melissa McCarthy, ce sont des acteurs américains pour les autres. Ursula, c'est la sorcière. Et puis le roi Triton, alors lui, c'est une surprise, il est joué par Javier Bardem, ce grand acteur espagnol. On le voit beaucoup ces temps-ci. Tu as remarqué, Thibault, il est dans pas mal de films en ce moment.
Beaucoup de films, pas mal de séries aussi. Et je ne pensais pas le voir en Roi des Océans.
Oui, c'est la surprise. Encore que pour le reconnaître, il faut vraiment le connaître. Hein, parce que là, le roi Triton, il a quand même une barbe assez importante. Enfin bref, on le reconnaît, oui. Mais enfin, parce qu'on sait que c'est lui. Hein, on sait que c'est lui. Sinon, on a Art Malik aussi. Art Malik, c'est un acteur qu'on connaît physiquement. Il est pakistanais et grand acteur. Hein, il vit beaucoup, je crois qu'il vit à Londres. Et c'est vraiment un acteur excellent. On a Jessica Alexander, une américaine. Et puis, on a Jude Akubik. Alors là, c'est pas... Je l'ai raté, ça me paraît normal. Jude Akubik. C'est un acteur britannico-nigérian. Et puis on a, pareil, hein, de toute façon, c'est un joli casting. Hein. On a la reine est jouée par une actrice britannique qui s'appelle Noma Dumezweni, qui est tout à fait pareil. Hein, ce sont d'excellents acteurs, donc c'est quand même un très beau casting pour ce très joli film. La petite sirène qui nous ramène à notre enfance un peu. Et puis pas tant que ça, hein, parce que c'est aussi une histoire quand même, il y a philosophique aussi, hein, une histoire sur la vie. Et ma foi, Rob Marshall nous dit « Ce film a été le plus difficile de ma carrière. En fait, je n'aurais pas pu y arriver sans l'expérience que j'ai acquise ce jour, personne n'avait encore fait de comédie musicale sous-marine. Oui, je disais que la petite sirène chante, entre autres. Alors voilà, il voulait que toutes les scènes sur Terre aient l'air particulièrement réalistes. Il voulait que celles qui sont sous l'eau soient fantasmagoriques. Le monde sous-marin, dit-il, est entièrement numérique. Voilà. Tandis qu'à la surface, tout est réel et tout est construit.
Après, je peux comprendre que ce soit compliqué de faire une comédie musicale sous-marine parce que chanter sous l'eau, on n'entend pas grand-chose.
Oui, oui, et oui.
C'est
un très joli film, mes chéris, à aller voir en famille quand même, vraiment. C'est sûr. Et on va quitter les eaux, on va quitter l'océan ou la mer. Eh bien oui, et on va aller retrouver un drôle de gars quand même là. Hein. On va retrouver Omar la fraise. C'est le titre du film parce que c'est le surnom de cet homme-là.
Omar plus connu sous le nom de Reda Kateb.
Tout à fait. Donc Omar la fraise, voilà. C'est un drame d'1h32 qui a été réalisé par Elias Belkedar, qui est un réalisateur, producteur, scénariste algérien. Donc, voilà. Et oui, ça me fait rire parce que, oui, effectivement, Reda Kateb est donc l'acteur, je vais donner le nom des acteurs, l'acteur donc qui joue le rôle d'Omar Lafraise. J'espère que ça ne lui collera pas trop à la peau et qu'il restera Reda Kateb quand même pour ce prochain film.
Ouais, alors, je pense quand même, parce qu'il ne doit pas avoir le même palmarès que Omar Lafraise, du coup.
Ah oui, voilà, c'est surtout ça. Le film est présenté en séance de minuit au Festival de Cannes 2023. Omar, plus connu sous le nom d'Omar la fraise, est un bandit à l'ancienne. Contraint à la cavale en Algérie, il vit de petites magouilles, accompagné de son illustre acolyte Roger. Après avoir régné sur le milieu du banditisme français durant des décennies, ils doivent ensemble accepter leur nouvelle vie alors qu'ils n'ont vécu jusqu'à présent que dans la débauche et la violence. Ah, on n'en dit pas plus. Parce que là, c'est vrai qu'on a un beau casting, on est content de revoir tous ces gens et ils ont tous beaucoup de talent. On a Reda Kateb, donc, Omar. On a Benoît Magimel, son acolyte, Roger. On a Myriam Amiar, on a Haroun Atala aussi. On les connaît de vue. Oui, on n'a pas forcément retenu leur nom, bien sûr. Parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a tellement d'acteurs et d'actrices, plein de talents. On ne peut pas retenir tous les noms. Hein. C'est certain. Hein. Et puis, on a qui on a encore ? On a Bilal Bouzoudi, on a Zina Bouzid aussi, qu'on a déjà vu, bien sûr. Maria Bentoumi aussi, dans les rôles principaux. Et alors, j'ai nommé Maria Bentoumi, c'est une actrice algérienne qui est très connue chez elle, de toute façon, quoi. Donc, il n'y a pas de problème pour elle. Et Elias Belkedar, le réalisateur, a travaillé avec deux scénaristes français, Jérôme Pierrat et Thomas Bilguin. Donc, ils ont travaillé sur ce scénario, et tous les voyous ont dans la vie, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que le réalisateur nous dit, tous les voyous ont dans la vie et au cinéma des surnoms imagés, parfois amusants, évidemment utilisés pour cacher leurs véritables identités. Ces dénominations sont d'une poésie violente. Derrière elle se cache du drame, de la terreur, mais aussi du dérisoire et de la tendresse. Je voulais inventer mon propre nom de voyou, un nom porteur de légende. Voilà ce que nous explique le réalisateur. Alors Omar la fraise, c'est sûr qu'on se dit, oh là là, c'est sympathique ça, des fraises et tout. Pas complètement quand même. Hein.
Omar la fraise
et son professionnel.
Omar la fraise et son fameux acolyte. Omar la fraise.
Ça c'était pour profiter de rythmes et d'énergie différents, pour filmer des nuances de langue, de culture et de croyances religieuses. Voilà ce que nous explique le réalisateur. Alors Reda Kateb, là, que tu as l'air de bien apprécier, Thibaut.
Énormément,
il a
oui.
Il a accepté le projet en 24 heures.
Je comprends.
Ah. Et quant à Benoît Magimel, alors lui, c'est encore mieux. Il a proposé au réalisateur de prendre un café sans avoir lu le scénario. Et au bout de 15 minutes, il a dit au réalisateur, vas-y, je t'aime bien, je le fais. Voilà quand même, hein, des anecdotes très, très sympathiques sur ce film Omar la Fraise. Et je crois que tu as une bonne surprise pour nous.
Et oui, pour écouter la bande-annonce, je peux vous proposer d'écouter la bande-annonce d'Omar la Fraise. Voilà.
Merci.
Et j'ai encore deux surprises pour toute l'émission. Hein. C'est Noël. La dernière fois, j'en ai mis que deux parce que voilà, il n'y en avait pas beaucoup en français, du coup, il fallait faire un tri.
Oui, il y a beaucoup de.
Aujourd'hui, il y a pas mal de films français quand même. Enfin, ouais. Qui sont en français. Donc, on commence par Omar la Fraise tout de suite.
Omar Zalouri, plus connu sous le nom d'Omar la Fraise. T'as pris 20 ans ce matin à Paris par défaut.
T'as une bonne nouvelle ?
La patrie de ton père, Jazeera, va te garder ici en sécurité, au soleil. T'es 100% Jazeera, wallah, ça m'émeut.
Ah, je vais pouvoir crever ici, quoi.
Marhaba bik el Jazeera.
C'est Omar, il déprime, il veut rentrer en France.
Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où il n'y a pas d'autre ?
Il t'a dit quoi, l'avocat ? Si tu bouges l'oreille, tu vas voir, tu vas repartir au placard.
Omar, Roger, Wallah, vous êtes deux légendes.
Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles ? Tu veux me baiser ?
Tu veux le baiser ? On va devenir des entrepreneurs, toi et moi. On va faire de l'oseille.
Dans ce pays, tu veux devenir millionnaire ? Faut commencer milliardaire.
Je suis là. Ça me rappelle quelqu'un.
Vous êtes des durs,
hein.
Vas-y, toi, tu peux rentrer à Paname, t'es libre.
Omar Zerouki, le nouveau gérant associé.
Hey, frérot, à la vie et à la mort. Pour moi, Omar, c'est quelqu'un qui porte en lui de l'humanisme.
Sans vantail à Chico.
De la joie de vivre.
Je suis qui ? Je suis ta puce, moi ?
Et ses racines, je veux qu'il renoue avec.
Santé.
Ouais.
N'essayez même pas, on bosse, ça suffit.
Yahoo! Pourquoi on l'appelle Omar la Fraise?
Parce qu'il opère ta dentiste.
C'était la bande-annonce de Omar la Fraise et je te propose qu'on passe du coup au prochain film. Tu m'as envoyé le film La Maleta.
Oui, La Maleta. Alors c'est différent, hein, c'est un petit peu plus violent encore d'ailleurs, parce que c'est un thriller, un policier mais thriller. Un thriller, c'est la taille au-dessus, hein, du policier. Ça dure 1h48.
Je dirais pas plus
et
violent.
C'est Georges, je sais pas, on le prononce, je sais pas, c'est un J, mais bon, Georges. Ah non, c'est ah oui, Javier Bardem, on dit Javier. C'est Rorge. Eh ben oui, le J se dit comme un R. Rorge Dorado, parce que c'est un réalisateur espagnol. Voilà.
Moi,
en Espagne, le J, on ne le prononce pas.
Je vais pas m'aventurer dans les accents, c'est un peu glissant, ce genre de terrain.
Mais non, mais je pensais à Javier Bardem. Parce que ça s'écrit Javier Bardem, mais ça se prononce Javier Bardem. Et là, c'est Georges avec un J, donc c'est Rorge Dorado. Ouais, c'était pour lui faire plaisir, s'il nous écoute. Non, c'est un réalisateur, donc producteur, scénariste espagnol. Il a 46 ans, il a 17 ans de carrière. Il a 6 tournages à son actif. Il a déjà eu, j'avais noté, oui, il avait une nomination, il a eu en 2014. Donc, on va voir de quoi il s'agit quand même. Alors attention avant, mes chéris, avertissement. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça, c'est bien noté, on est d'accord. Mario travaille à Madrid, au bureau des objets trouvés. Un jour, on lui remet une valise trouvée au fond d'une rivière. À l'intérieur, Mario trouve des vêtements et des ossements d'enfants. La police n'étant pas résolue à enquêter, il décide alors de mener ses propres recherches au péril de sa vie. Eh oui, c'est une sacrée histoire quand même. Hein. C'est assez. Alors on a donc dans les rôles principaux, on a des acteurs espagnol. On a Alvaro Morte qui joue le rôle de Mario. Bon, ils sont connus chez eux tous les deux, là. Verónica Echegui aussi, qui joue une jeune femme qui s'appelle Elena. On a Daniel Araos. On a Maria Eugenia Suarez dans les rôles principaux. Et chouette, parce que moi, je ne connais que lui. Le Daniel Araos, je l'avais déjà vu. Mais lui, c'est un acteur argentin. Je le connaissais physiquement. Mais les autres, je ne les connais pas. Et vous, mes chéris, si vous ne les connaissez pas, eh bien, chouette, parce qu'on va faire leur connaissance, justement. Voilà, ça c'est très, très bien. Et alors, La Maleta, ça raconte l'histoire d'un homme tourmenté, une sorte de bossu de Notre-Dame moderne, Notre-Dame de Paris moderne, qui tente d'échapper à sa souffrance et au rejet des autres en se cachant du monde extérieur. Ah ouais. Et le réalisateur nous dit que c'est un homme qui traite les objets tels des personnes, à la différence des hommes qui traitent les personnes comme des objets. Alors c'est donc un thriller dont le protagoniste est un homme simple, ouais, qui aime les films d'Humphrey Bogart, ah, et les romans policiers. Eh oui, dans le film, un acteur qui joue un personnage amateur d'Humphrey Bogart et des romans policiers. C'est quand même amusant. Ouais. C'est assez amusant, ça, oui. Alors là, il voulait aller plus loin dans ce genre, dans le genre un homme lambda dont on suit le parcours au gré des recoins les plus sombres de l'âme humaine, le tout dans une approche à la fois physique et charnelle. Il voulait aller plus loin dans cette introspection. Eh oui. C'est une histoire policière, La Maleta, mais qui parle aussi d'amour et de rédemption. Et d'un sujet, malheureusement, toujours d'actualité. Le fait de traiter une personne comme un objet. Il nous dit que c'est un thriller émotionnel, avec un sous-texte de peur, de solitude, mais aussi d'un besoin d'amour. Alors le message qu'il voudrait tirer de ce film, c'est « Il n'est jamais trop tard » pour trouver le bonheur et s'affranchir des autres. Voilà ce qu'il nous dit. C'est chouette, ça, non ? C'est joli, je trouve.
C'est vraiment sympa, c'est vrai. Je trouve ça cool. Et pour revenir au fait que ce soit plus violent, je pense pas que ce soit plus violent, mais plus sombre.
Oui, voilà, plus sombre. Voilà, exactement. Oui, le mot est plus juste. Tout à fait. Tout à fait. Mais il y a quand même des scènes, des propos qui peuvent heurter la sensibilité parce que il y a quand même par moments, c'est un thriller, hein, policier, mais thriller aussi. Ben il y a des petits moments comme ça.
Le mieux à faire pour être prévenu, c'est d'aller. Hop, je suis une petite pub. Hein. C'est d'aller sur le site de la radio, re2m.org. Vous allez sur le podcast, le tout dernier podcast de conversation autour du cinéma, et vous avez toutes les bandes annonces et vous pouvez tout regarder. Comme ça, vous êtes prévenu quand vous allez voir un film et que vous ne savez pas trop quoi voir ou pas trop à quoi vous attendre. Comme ça, hop, vous avez toutes les infos. Par exemple, le dernier film. Je spoile pas, mais moi, le premier, j'étais pas serein quand j'ai vu la bande annonce. La preuve, je l'ai pas vu en entier.
Oui, voilà. Non, mais c'est bien que tu rappelles ça, parce qu'effectivement, regarder une bande-annonce, bon, il y a des bandes-annonces parfois qui sont trop explicatives, il faut faire attention à ça. Il faut quand même garder du mystère quand on va voir un film, hein, faut pas... Mais c'est comme quand on lit un livre, hein, on ne commence pas par la fin, hein, on est d'accord. Donc, mais il y a certaines bandes-annonces, beaucoup de bandes-annonces qui sont vraiment très très bien, et qui donne envie, pas, d'aller voir le film, effectivement. Et si on partait maintenant, je sais pas, est-ce qu'on peut, on pourrait peut-être partir dans la forêt, non ? Non ? T'as pas envie de forêt un peu ? Non ?
Ben, je sais pas. J'irai pendant les vacances, moi. Moi, je suis en vacances la semaine prochaine,
d'accord.
On verra.
Oui, mais si le titre, si je te dis « L'amour et les forêts », ah !
Ben là, ça peut être sympa, là. C'est plus rassurant, pour le coup.
Oh, mes chers auditeurs, mes petits chéris, n'écoutez pas ce que nous dit Thibault. Oh
ouais, c'est plus rassurant. Alors, on me dit forêt tout seul, ça peut être inquiétant. Hein.
Oui, tout à fait. L'amour et les forêts, surtout que, je suis désolée, mais ce n'est pas une comédie. C'est un drame et c'est un thriller également. Aïe, aïe, aïe. Eh, mais oui, Et c'est une grande réalisatrice qu'on connaît très bien qui l'a réalisée, c'est Valérie Donzelli. Oh là là, on commence vraiment à la connaître, réalisatrice, actrice aussi, hein. Elle est scénariste également, elle est française, elle a 50 ans, elle a 22 ans de carrière, 58 tournages, évidemment y compris les films dans lesquels elle apparaît comme actrice, hein. Et elle a quand même engrangé, j'avais noté, 6 prix et 61 nominations. Oui, bon, hein, quand même. Mais c'est vrai même en interview, quand on l'écoute, on a l'impression de la connaître vraiment, d'être presque de sa famille. Elle est vraiment c'est quelqu'un qui est très agréable à écouter en interview. Alors en fait, il y avait deux courts-métrages pour elle. Il y a, je pense qu'elle a sept ou huit longs métrages pour elle, et puis pour tout le reste, c'est sa vie d'actrice. Elle a beaucoup, beaucoup tourné. Elle a beaucoup joué, en fait, Valérie Donzelli. Et donc là, elle nous propose, je redonne l'avertissement parce qu'il y est. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Hein, on est d'accord là-dessus. Après, vous choisissez, mes chéris. Hein, vous connaissez les gens avec qui vous irez au cinéma. Vous savez ce que vous pouvez supporter ou pas. Hein, voilà, chacun sait.
C'est le moment où je dois refaire mon petit laïus.
Chacun fait sa petite analyse. Voilà.
C'est le moment où je dois refaire mon petit laïus sur les podcasts, ou pour l'instant ça suffit.
Voilà, oui, en quelque sorte. Non, on va attendre un petit peu.
On verra dans quelques minutes.
Alors, le film est présenté à Cannes Première, au Festival de Cannes 2023. Voilà, hein, il est à Cannes. Quand Blanche croise le chemin de Grégoire, elle pense rencontrer celui qu'elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l'emportement. Le couple déménage. Blanche s'éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle. Elle s'ouvre à une nouvelle vie, mais fil après fil, elle se retrouve sous l'emprise d'un homme possessif et dangereux. Alors c'est adapté d'un roman, du roman de éponyme, hein, du même nom, de Eric Reinhardt. Vous pouvez le trouver, on peut le dire, là, aux éditions Gallimard, puisque c'est là qu'il a été... C'est là qu'il est publié, enfin il est publié par Gallimard. Donc, je ne sais pas si tu le connais, toi, Eric Reinhardt, c'est un romancier, un éditeur d'art français. Voilà. Il a 58 ans, il a déjà eu le prix Renaudot des lycéens, comme distinction. Il vit et il travaille à Paris. Et donc, ce film est adapté de son roman. Ouais. Alors, on a un casting, ils sont très beaux les castings aujourd'hui. De toute façon, ils sont souvent assez réussis les castings quand même. Hein. J'en connais très peu qui ont été ratés, où il y a un acteur qui ne correspondait pas, hein, j'en connais très peu. Il y en a sûrement eu, mais bon. Et là, on a Virginie Efira. C'est pareil, elle, on la voit, elle tourne beaucoup, on est ravis parce qu'elle est charmante et elle a beaucoup de talent. Elle joue donc le rôle de Blanche. Et Greg est joué par Melville Poupeau. Ah, oui. N'est-ce pas, mesdames, mesdemoiselles, Melville Poupeau, beaucoup de charme quand même. Hein. On peut s'y laisser prendre. Alors, on a Dominique Raymond aussi, elle joue l'avocate d'ailleurs. Grande actrice également. On a Romane Boringer. On est très, très, très content de la retrouver aussi, Romane Boringer. On a Virginie Ledoyen. Eh ben oui. On a Marie Rivière. On a Laurence Côte. Gwang Ho, dans les rôles principaux. On les connaît. On les connaît tous, quasiment. Bertrand Belin, Zoé Lenoir, Arthur Thunin. Oui, on les connaît. Hein, on les connaît. On les connaît, tous ces acteurs et toutes ces actrices. C'est un plaisir de les retrouver, vraiment. Alors, L'amour les forêts, donc, c'est drôle parce que, adapté du roman donc, d'Eric Reinhardt, Valérie Donzelli, elle avait lu le roman pendant qu'elle tournait, d'ailleurs, pendant qu'elle tournait le film Marguerite et Julien en 2015. Elle avait, enfin, c'est ce qu'elle nous dit, hein, elle y avait trouvé des résonances personnelles. Voilà. Donc, mais ce qui m'a vraiment décidé à l'adapter, dit-elle, c'est la scène où Grégoire, l'amoureux, fait son mea culpa après avoir entendu à la radio le portrait d'un homme maltraitant sa femme. Et comme il retourne, et comment, de quelle façon il retourne la situation pour se poser en victime. Et comment ce stratagème pervers fait mouche parce que la véritable victime de ses agissements ne sait pas y résister. C'est une histoire terrible. Vraiment. Elle a voulu faire un film à la fois, c'est ce qu'elle nous dit en tout cas, très mental et très incarné. Eh oui. C'est quand même... voilà. Elle a choisi Virginie Efira avant même de commencer l'écriture du scénario. Parce que pour elle, c'est une actrice qui génère de l'empathie, quoi qu'elle fasse, quel que soit le personnage qu'elle incarne. Elle pourrait jouer le pire des monstres, on l'aimerait quand même. Enfin, au moins un peu. Voilà. Et elle la voulait parce que cette empathie qu'elle ressent par rapport à Virginie Efira était cruciale dans le rapport au spectateur. Elle a tout de suite aimé, d'ailleurs, Virginie Efira, et elle a tout de suite accepté le rôle. Et puis pour Melville Poupeau, bah oui, un jour, il a surgi et il est apparu, nous dit la réalisatrice, comme une évidence. J'ai regardé les photos, je l'ai trouvé beau et je me suis souvenu qu'il était génial. Et voilà. Et c'est lui qui joue donc Grégoire l'amoureux. Aïe, aïe, aïe. Un rôle sombre pour avoir hein, ça c'est vraiment un film à voir. Mais je pensais à une surprise, Thibaut, non?
Non,
non,
arrive,
bah non.
La surprise n'arrive pas tout de suite. Non. Alors c'est pas le prochain film,
non,
c'est
non,
celui d'après.
Non, c'était pas ça, non. Bon, est-ce que tu aimes le vent en fait?
Ouais, pas trop fort, mais ouais. Ouais.
Pas trop fort.
Non,
mais c'est... Est-ce que tu aimes l'odeur du vent?
Oui, quand ça sent bon, ouais.
Oui. Bah, surtout que c'est le titre du film, hein. L'odeur du vent.
Regardons.
C'est un drame.
C'est marrant de regarder l'odeur du vent.
C'est un drame, oui. D'1h30. Et alors, alors là, c'est pareil, hein. Pour la prononciation, ça ne va pas être facile. C'est un réalisateur iranien qui s'appelle Hadi Mohaggeg. J'espère que je n'écorche pas son nom. Il est acteur, réalisateur, il est scénariste également. Et alors on va voir, bon, ben de quoi s'agit-il? Parce que l'odeur du vent, c'est quoi ça? Dans une maison isolée, au milieu d'une plaine d'Iran, un homme vit seul avec son fils, alité. Un jour, le transformateur de la maison tombe en panne. Un électricien vient pour le réparer. Une pièce manque. Il part à sa recherche, qui sera semée de rencontres et d'obstacles. Ouh, c'est mystérieux, ça. Alors, les deux acteurs principaux sont Hadi Mohaggeg, c'est-à-dire le réalisateur, et Mohamed Ekbali. Mohamed Ekbali. C'est pas... Je suis désolée, hein, c'est un peu... Je veux pas les écorcher. Mais c'est pas facile. Et lui qui a aidé le réalisateur pour le scénario justement. Il l'a assisté pour son scénario et il joue dans le film. Ils jouent tous les deux dans le film. Ce sont les deux acteurs principaux du film. Alors l'odeur du vent a obtenu le grand prix du jury au Festival international de Busan ainsi que la Montgolfière d'argent au Festival des Trois Continents à Nantes. Alors c'est bon, le titre original c'était d'herbe. Et d'herbe ça signifie, pour la langue de la région iranienne dont est originaire le réalisateur, c'est-à-dire la Lori, ça signifie sol dur. En référence au gagne-pain du père qui doit gratter dans le sol de la montagne pour recueillir une substance médicinale traditionnelle. Alors, il a fait ce film, enfin, c'est ce qu'il nous dit, hein, a dit Mohageb. Mohageb, ah oui, je me lance encore, Mohageb. En faisant ce film, j'ai souhaité montrer la dignité des habitants de cette région, malgré tous les problèmes et les difficultés qu'ils affrontent. Ce qui m'intéressait, c'était d'approcher ces gens simples, solidaires et qui vivent dans la simplicité de la nature. Voilà pourquoi je voulais parler de ce film. Ça me semblait, bien que les noms soient absolument imprononçables pour moi, pauvre française, je trouvais que c'était un film intéressant à voir. Voilà. J'avais envie de vous en parler, mes chéris. Eh bien oui. L'odeur du vent.
Et pour le prochain film, on s'est...
Découvrir un peu le cinéma iranien, découvrir ces acteurs qui sont aussi réalisateurs et scénaristes, ça vaut le coup quand même.
Et pour le prochain film, on s'aventure sur un terrain que je connais un peu mieux, oui.
Ah bon ?
Ah oui, oui. Bah oui, ah là oui, quand même.
Ah, je sais, tu veux parler des chevaliers.
Mais oui, on va parler des chevaliers.
Les chevaliers du Zodiac. Les chevaliers du Zodiac.
Connus sous le nom de Senseiya aussi, pour autres.
Ouais. C'est de l'aventure, c'est de l'action, c'est du fantastique. Ça dure 1h52. Et c'est réalisé par Thomas Baginski, qui est un réalisateur, producteur, scénariste, tout, polonais. Il a 47 ans, 19 ans de carrière. Il a 9 tournages à son actif. Il a déjà eu, j'avais noté, un prix et 2 nominations, ce monsieur Thomas Baginski. Et là, il a voulu... Ah ben là, il reprend les Chevaliers du Zodiac. C'est parce que toi, tu nous parles de la... je suppose...
De la série animée.
Voilà, hein, c'est ça.
Qui est super d'ailleurs. Bah oui. Je la conseille à tous. Hein. Qui est très très bien. Là, oui. Vraiment très très bien.
Ouais. Mais c'est Seiya, bah, tu connais sûrement. Alors, un adolescent, oui, Seiya, oui, au caractère bien trempé, qui a l'habitude de participer à des combats pour gagner de quoi survivre dans la rue, tout en recherchant sa sœur qui a été enlevée. Durant un combat, il puise involontairement dans des pouvoirs mystiques insoupçonnés et se retrouve propulsé dans un monde où il rencontrera des chevaliers en armure tirant leur puissance d'un entraînement magique ancestral. Et il rencontrera Athéna, une déesse réincarnée qui a besoin de sa protection. S'il veut survivre, il devra affronter son destin et tout sacrifier pour prendre la place qui lui revient parmi les chevaliers du Zodiac. Alors là, bon, c'est pareil, il y a un casting qui est vraiment très sympathique. Seiya est joué par... Alors, il a... Je ne sais pas, parce qu'il a juste un nom, Makenyu. Hein, il a... Makenyu, voilà. Son vrai nom, en fait, c'est Makenyu Maeda. Mais il a gardé comme acteur juste son nom, Makenyu, qui est un américano-japonais. Un acteur américano-japonais. Il a 26 ans et il est vraiment impeccable dans ce rôle, hein, je dois dire. Ensuite, on a Sean Bean. Oh, mais Sean Bean, on le connaît, lui, hein, quand même. C'est un acteur britannique. Hein. Oh, oui, dès qu'on voit son visage, on se dit « Oh, oh, mais je l'ai déjà vu ». On a également une actrice néerlandaise, Famke Janssen, qui joue le rôle, enfin, de toi tu connais, Van der Gourad, le rôle. On a Madison Iceman qui est une américaine, hein, qui est une actrice américaine, qui joue le rôle de, ben, elle a les deux rôles en fait, de Sienna et d'Athéna. C'est elle qui est réincarnée. Elle est charmante. Enfin, c'est un joli casting, hein, de toute façon. Et c'est une adaptation en prise de vue réelle du célèbre manga, évidemment, celui que tu connais, hein, créé par Masami Kurumada, qui comprenait quand même... Ah oui, alors le manga comprend 28 tomes et il a été pré-publié entre 1986 et 1990 dans le magazine Weekly Shonen Jump. Alors ça a été un succès incroyable, hein, 50 millions d'exemplaires dans le monde, vendus, enfin bon... quelque chose Et tu as, toi, les exemplaires, alors, si je comprends bien.
Non, j'ai pas les exemplaires. J'ai regardé la série animée, pour le coup.
Ah, d'accord. D'accord. Donc, tu connais tous ces héros. C'est très sympathique. Hein,
ça fait un petit bout de temps que
j'ai vu.
Alors,
c'est produit par le Japon et par les États-Unis.
Et du coup...
Voilà, je pense que ça va marcher, ça va être un régal.
Ah oui, je pense que...
Pas mal de gens, non ?
Comme le premier film qui était sorti, je crois, il y a quelques temps que ça, de ça, il y a un film qui était sorti déjà sur les Chevaliers du Zodiac qui avait plutôt bien marché.
Ouais.
Un peu à la Albator qui était sorti, il y a quand même un petit bout de temps aussi. Moi, je peux proposer de suite la bande-annonce des Chevaliers du Zodiac, mais de cette année.
Je l'attendais, j'allais te demander. Ah, oh, merci.
Donc tout de suite, la bande-annonce des Chevaliers du Zodiac.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
J'ai eu une vision. Des gens brûlés vifs. Tout était détruit. C'était Athéna. C'était à cause d'elle. C'était à cause de moi.
Rassure-toi, on ne laissera pas faire ça. Je t'ai vu sur le ring. C'est forcément toi, Seiya. Et si je te dis que Sienna, ici présente, est la réincarnation de la déesse Athéna, ta destinée à toi est de devenir l'un de ses chevaliers protecteurs.
Et ça te fait quoi d'être une déesse ?
Parfois, je me sens étrangère dans mon propre corps. Es-tu prêt pour l'entraînement ? Le chevalier de Pégase se montre courageux, humble. Est prêt à donner sa vie pour protéger Athéna.
Comment t'as réussi à faire ça?
La guerre qui nous attend est d'une ampleur jamais vue. J'arrêterai Athéna avant qu'elle nous détruise.
Tu crois que j'ai voulu cette vie? Seiya!
Son pouvoir nous menace. Une fois qu'il saura le contrôler, aucun être vivant ne lui résistera.
Tu mets ta ceinture, ça va secouer un peu. Tu croyais être le seul chevalier ?
C'était la bande-annonce des Chevaliers du Zodiac et je propose maintenant qu'on passe à un autre film... qui, dans mes souvenirs, d'après la bande-annonce, n'est pas français. Et la bande-annonce n'est pas en français
cachée.
Non plus.
Ouais, face cachée, au pluriel. Hein. Face et cachée, c'est au pluriel.
Oui,
c'est un thriller d'1h40. Alors là, il y a deux réalisateurs. Il y a Christine Mollois, qui est une réalisatrice scénariste-monteuse. Elle a 3 ans de carrière. Et elle a travaillé, enfin, ils ont travaillé ensemble avec Joey Lawlor, qui est un réalisateur, producteur, scénariste avec 3 ans de carrière également. On peut presque dire que ce sont des débutants, hein, quasiment. Et j'ai eu envie, moi, de parler de ce film. Alors, il y a encore un avertissement, je suis désolée, hein, je suis dans les avertissements aujourd'hui. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Bon sang, le cinéma nous secoue, là, hein, au mois de mai. Quand même. C'est l'histoire de Rose, qui est étudiante en médecine vétérinaire et qui décide de contacter Hélène, sa mère biologique qu'elle n'a pas connue. C'est une actrice à succès qui ne veut pas développer de relation avec Rose. Cette dernière se montre très tenace et Hélène finira par révéler un secret qu'elle a caché pendant plus de 20 ans. À la suite de cette découverte, Rose va se rapprocher de son père biologique. Ouh là 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 là, attention, il y a plein de mystères aussi dans ce film. C'est quand même, hein, ouf. Alors, on a des acteurs irlandais, on a beaucoup d'acteurs irlandais. Alors, on a Anne Skelly qui joue le rôle de Rose. On a Orla Brady, qui joue le rôle d'Hélène. On a Aidan Gillen dans les rôles principaux. Alors, bon, pour l'instant, ce sont des acteurs irlandais, presque tous, je crois d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas vu de Annabelle Richardby aussi, qui est une actrice irlandaise dans les rôles principaux. Et c'est un. Alors, effectivement, les deux réalisateurs nous disent qu'au cours d'une année, nous avons commencé la plupart de nos journées en marchant, en longeant le Regent Canal. L'histoire d'une jeune femme adoptée a commencé à prendre forme, et au fil des mois, nous avons commencé à préciser les détails de l'histoire et la façon dont nous voulions l'exprimer. C'est, voilà, ça résume les deux choses les plus importantes dans la réalisation d'un film, en tout cas pour nous deux, nous disent-ils, l'histoire, mais aussi la narration. Alors, ils sont intéressés par les récits et les personnages dont le point central est l'identité sous la contrainte. Oui, effectivement, cette histoire, au cœur du film se trouve le désir de Rose de réconcilier ces deux versions différentes d'elle-même, car ne connaissant pas son passé ni d'où elle vient, elle s'efforce d'imaginer son avenir. C'est quand même... Le personnage de Rose est pris dans la réalité de l'adoption telle qu'elle existe en Irlande. Ça, c'est important quand même, l'adoption en Irlande. Dans ce pays, le pouvoir a toujours appartenu aux parents biologiques, et plus précisément à la mère biologique. Si la mère biologique ne veut pas être retrouvée, elle a le droit légal de refuser tout contact avec son enfant. Alors, elle, Hélène, la mère biologique de Rose, a de bonnes raisons de ne vouloir aucun contact avec la fille qu'elle a abandonnée, et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour éviter ce contact. Mais Rose est tenace et trouve inévitablement son chemin dans le monde soigneusement construit par Hélène. On ne va pas en dire plus.
Non, on ne va pas en dire plus, on ne va pas spoiler non plus.
Parce qu'il y a du mystère là-dedans. Et oui. Mais je trouvais que c'était intéressant quand même d'en parler. C'est chouette aussi quand il y a du mystère comme ça. Avec,
Ben c'est toujours intéressant.
Ben bien sûr. Et puis on va finir par un film d'épouvante. Un film d'épouvante et d'horreur. The House. La maison. Ça dure 1h39. Et c'est réalisé par quelqu'un qui aime ça. Hein, qui aime faire ce travail. Qui aime ce genre de réalisation. Kyle Edward Bell, Ball plutôt d'ailleurs, Kyle Edward Ball, j'ai de la chance aujourd'hui avec les noms, c'est un réalisateur scénariste canadien. Alors il s'est régalé, là paraît-il en tout cas, pour ce... Deux enfants se réveillent au milieu de la nuit pour découvrir que leur père a disparu, et que toutes les fenêtres et les portes de leur maison ont disparu. Bon, ben vite, hein, il faut regarder si on a toujours nos portes et nos fenêtres. T'as toujours, chez toi, tu sais pas si tu vas trouver tes portes, tes fenêtres, Thibaut.
Bon, si, sûr, je pense que je vais les retrouver. On va vite sentir un courant d'air, sinon.
Non, c'est rien. alors dans les rôles principaux, on sait pas, hein, dans les rôles principaux, on a des acteurs canadiens. Chouette. On va aller voir Lucas Paul, on a Dali Rose Preto. On a Ross Paul, on a Jen Hill. Voilà, c'est une production canadienne. The House. Alors, si vous voulez aller trembler, allez-y, pourquoi pas.
On peut trembler de suite même parce que j'ai la bande-annonce.
C'est vrai?
Ouais.
Ah, chouette.
Ouais.
Chouette. Allez, vas-y, va. Donc... Fais-toi plaisir.
Eh ben, c'est parti, parce que j'ai même pas pu la regarder en entier, parce que c'est trop flippant ce truc. Donc tout de suite, la bande-annonce de The House.
Ouais, merci.
In this house. In this house. In this house. In this house.
There's no one here. Got me.
Okay.
C'était la bande-annonce de The House et maintenant on va partir sur les sorties.
Bah, on va quitter le cinéma mondial en fait.
Voilà, on va partir sur les sorties de l'Aréole.
On va revenir chez nous. Tu veux bien qu'on vienne chez nous ? Alors on va parler de notre partenaire, le cinéma Rex de l'Aréole. Moi je voudrais donner les titres des films qui, pour la semaine du 24 mai au 30 mai. Voilà, ça fait 7 films en fait. Hein. Donc il vous propose Rex l'Aréole, L'Arbre à vœux. Alors on en a parlé hein, dans une émission.
Si oui,
vous,
si
vous regardez les podcasts, vous pourrez retrouver tous ces films avec quelques explications sur les dates précédentes.
Et les bandes annonces qui vont avec.
De la conversation autour du cinéma. L'Arbre à vœux, c'est de Ricard Rousseau, qui est un réalisateur australien. Voilà, ça dure 1h30 et c'est conseillé, en tout cas, c'est une animation pour les enfants à partir de 6 ans. Et c'est très joli, L'Arbre à vœux. Ensuite, vous pourrez voir à l'Aréole Umami. Alors, Umami, c'est une comédie dramatique d'1h31, réalisée par Sloni Sao, qui est un acteur français, un réalisateur, mais décidément, j'en veux au réalisateur, moi. Qui est un réalisateur français. Alors, c'est produit par la France. On a Gérard Depardieu, on a Pierre Richard, on a Sandrine Bonner, on a Kyozo Nagatsuka, qu'on connaît, c'est un acteur qu'on connaît. Même si on n'a pas retenu son nom, on le reconnaît en tout cas. Umami. Vous pouvez aller voir la conférence aussi. Ça dure 1h48 de Matti Geschonek, qui est un réalisateur, producteur allemand, voilà. C'est un film qui est proposé en version originale, sous-titrée, la conférence. Ensuite, vous pouvez voir Hawaï, ça dure 1h44, réalisé par Mélissa Drijard, qui est une réalisatrice française, c'est une production française, et vous avez dans les rôles principaux Bérénice Bégeot, Élodie Bouchez. Pas mal du tout quand même. Et puis vous pourrez voir également Okuzai, qui est un drame historique, c'est un biopic de Hajime Hashimoto, qui est un réalisateur japonais, ça dure 1h30. On a Yuya Yajira dans les rôles principaux, Min Tanaka, on les connaît, c'est pareil. On n'a pas retenu leur nom peut-être, mais on les reconnaît physiquement. Production japonaise, qui est proposé en version originale sous-titrée, Okuzai. Et puis vous avez alors là, l'action avec Fast and Furious 10. Furious 10, oui, c'est ça, ouais, Fast and Furious 10. Ça dure 2h21, c'est réalisé par Louis Leterrier, qui est c'est une production américaine. Alors on a dans les rôles principaux, on les connaît, parce que c'est toujours eux, hein. Puisque c'est le 10e, ça veut dire qu'il y en a eu quand même 9 auparavant. On a toujours Vin Diesel dans les rôles principaux et Michele Rodriguez. C'est quand même... voilà. Ça, on connaît hein, Fast and Furious. Ça marche du tonnerre, d'ailleurs. Bah oui. Et puis, vous pouvez aller voir également Le Vent se lève, qui dure 2h04. C'est un drame. C'est historique. C'est la guerre. Et ce film fait partie du ciné-club du lycée de l'Aréole. Il passera, attention, note mes chéris, le mardi 30 mai à 18h15 au cinéma Rex de l'Aréole. C'est un réalisateur britannique très connu qui l'a réalisé, c'est Ken Loach, qui est un grand, grand réalisateur. Il y a une présentation et des échanges en fin de séance. Alors, les tarifs sont de 5,30 € et pour les lycéens, c'est 3,50 €. Ce film a eu la Palme d'Or en 2006. Il a eu 2 prix, la Palme d'Or plus 12 nominations. Et il a été produit par la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Le Vent se lève, mardi 30 mai, 18h15. Voilà le programme de notre partenaire.
Et bah du coup, c'est la fin de l'émission pour le coup.
Voilà.
On arrive tout juste au timing. Bah, du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine et on se retrouve pareil, mercredi prochain, même heure.
on parlera du cinéma du monde entier. On parlera probablement de notre partenaire de l'Aréole également. Et puis, on sera très, très, très content de vous retrouver. De toute façon, bonne semaine Thibaut, bonne semaine à toi.
Ben
je
merci,
te laisse,
aussi.
Comme je te dis à chaque fois d'ailleurs, hein, je te laisse derrière ton micro. Voilà.
Ben, je ben, te quitte, merci.
C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Et puis, on se quitte. On se retrouve et on se quitte. Bonne semaine aussi, mes chers auditeurs. Merci de nous recevoir chez vous. Merci d'être fidèles à notre belle radio, à toutes ces émissions et toutes ces belles musiques. Merci, merci pour tout ça. Et oui, essayez d'être heureux, en tout cas le plus possible. Passez d'excellentes journées, carpe diem. Et n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Sur le 98.4. Radio Entre-deux-Mers, à Blasimon sur le 98.4 FM.
À Sauveterre de Guyenne, vous écoutez REM en FM sur le 98.4.
REM, votre radio locale.
À l'Aréole, vous écoutez REM en FM sur le 98.4.
Trop gentil pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant pour gagner l'intérêt des gens? Dans l'arène, je me suis fait rare, un peu comme un nouveau départ. Adieu la gloire et sa folie. Je m'enfuis, tu me suis. J'oublierai pas d'où je viens, qu'on vivra jamais serein. La mort a pas de promesse, y'a que l'amour qui reste. J'oublierai pas d'où je viens. Je tomberai pas dans le panneau, à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, du pays ou du père. Je tomberai pas dans le panneau, je laisserai personne sur le carreau. La guerre se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserai personne sur le carreau. J'ai pas trouvé la solution, j'attends pas la révolution. Mais on change pas le cours de l'histoire, en foutant feu pour l'amour de l'art. Qu'est-ce qu'on a fait de ces valeurs? Je marche dessus, moi j'ai pas peur. Comme la fin du meilleur des mondes, un empire qui s'effondre. Je vendrai pas mon âme au diable pour voir personne à ma table. Ignorant de la fable, le démon et les flammes, je vendrai pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le pas. Personne sur le carreau. Je tomberai pas dans le panneau. Je tomberai pas dans le panneau. Je tomberai pas dans le panneau. Je vendrai pas mon âme au diable pour voir personne à ma table. L'ignorant de la fable, le démon et les flammes. Je vendrai pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le panneau, à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, où tu brilles, où tu perds. Je tomberai pas dans le panneau, je laisserai personne sur le carreau. La galère se prend des râteaux, quand on rêve à plus. plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je serai personne sur le cas où je tomberai pas dans la barre. À vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères. Tu es un, tu perds. Je tomberai pas dans la panne. Je serai personne sur le cas où les galères se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je serai personne sur le cas.
Tout de suite, une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM. 98.4 FM. Et sur le www.re2m.org. Il est midi. Vous écoutez 100% Nouvelle Scène sur REM.
Chemin de la bohème, j'ai croisé le bout du monde, des petits matins au café crème, où je taxais ma première blonde, avant de partir, le pouce en l'air. À l'autre bout du bout du monde, avant de partir le pouce en l'air. À l'autre bout du monde, sur les chemins de la bohème, j'ai croisé la neige et le soleil. Une fille qui m'a dit je t'aime, un soir où elle n'avait pas sommeil, avant de partir le cœur en l'air. À l'autre bout du monde, avant